Je voudrais remercier François Recanati de m'avoir invité et je vous remercie tous de venir ici, surtout avec la grève. Et je m'excuse par avance de vous lire en grande partie mon exposé, c'est pour avoir le français un peu plus fluide. OK. Voici quelques personnages de fiction de la littérature. Don Quichotte de Miguel de Cervantes, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, Anna Karenine de Tolstoï, Okonkwo dans Tout s'effondre de Chinua Achebe, Ama dans Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo, et Anjoum dans Le ministère du bonheur suprême de Arundhati Roy. De toute évidence, il y a des personnages de fiction. Pourtant, dire qu'il y a des personnages de fiction semble contredire la palissade selon laquelle les personnages de fiction n'existent pas. Comment peut-il y avoir des personnages de fiction s'ils n'existent pas? On a entendu une réponse de professeur Recanati il y a quelques moments. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On aura un bon débat aujourd'hui. Comment penser à eux et en parler? Ça, c'est la question. Et aussi, quelle est la différence entre penser et parler de la princesse de Clèves, par exemple, et d'autre part, penser et parler des vrais individus de la cour royale d'Henri II? Par exemple, voici des images d'Henri II et de Diane de Poitiers, son amante, qui apparaissaient également dans le roman. Vous saurez un peu, d'après le cours de François Recanati, qu'il existe deux positions opposées concernant des personnages de fiction. Les anti-réalistes disent qu'on fait seulement semblant ou fait comme si il y avait des personnages de fiction, c'est-à-dire dans tout le discours, pas seulement dans le discours fictionnel. Les réalistes prétendent que les personnages de fiction existent réellement, non pas en tant qu'êtres humains concrets, bien sûr, mais en tant qu'entité littéraire abstraite, distincte des œuvres dont ils font partie, même s'ils dépendent des œuvres. Mais ils sont quand même distincts, des choses distinctes. Dans cet exposé, je commencerai par décrire les traits caractéristiques de la pensée et du discours sur les personnages de fiction. C'est ce qu'une théorie doit, à mon avis, expliquer. Ensuite, je vais esquisser l'approche que je préfère, qui est anti-réaliste. Enfin, je soutiendrai que les énoncés métafictionnels ne nous donnent pas de bonnes raisons d'adopter le réalisme. C'est là où je ne suis pas d'accord avec François Recanati. Je me tourne maintenant vers une description de ces caractéristiques dont j'ai parlé. Okay. Le premier trait caractéristique renvoie au problème traditionnel de l'intentionnalité, c'est-à-dire le phénomène selon lequel on vise quelque chose par la pensée. Quand je pense à une pomme, il semble bien qu'il y a quelque chose à quoi je pense, à savoir une pomme. Quand je pense à la princesse de Clèves, il semble aussi qu'il y a quelque chose auquel je pense, à savoir la princesse de Clèves. Et penser à la princesse de Clèves, ce n'est pas la même chose que de penser d'autres personnages dans ce roman ou dans les autres romans, par exemple Madame de Beauséant de Balzac. La même remarque vaut pour le langage. Parler de la princesse de Clèves, c'est autre chose que parler de Madame de Beauséant, même si aucun des deux noms ne revient à rien. J'utiliserai le terme « identification » pour désigner quelque chose sans engagement ontologique, c'est-à-dire sans supposer qu'il existe vraiment quelque chose que je désigne. Non seulement on identifie les personnages de fiction, mais on les co-identifie également. C'est-à-dire que différentes personnes peuvent parler et penser au même personnage de fiction. Ceci est essentiel à la pratique de la fiction. Madame de Lafayette a écrit une histoire dans laquelle la princesse de Clèves est un personnage, et d'autres personnes pensent et parlent de cette même princesse de Clèves dont elle a parlé, dont elle a écrit. Une question consiste à comprendre ce qui fait que les personnes pensent et parlent du même personnage. C'est une question. Le deuxième trait caractéristique concerne les jugements de vérité et de fausseté qu'on porte sur les énoncés à propos de ces personnages. François Racanetti a traité de plusieurs types d'énoncés sur la fiction, le fictionnel, le parafictionnel et le métafictionnel. Et voici un exemple d'énoncé fictionnel, c'est la première phrase du Père Goriot de Balzac. Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tenait à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marcel. Les énoncés fictionnels comme cette phrase semblent impliquer la simulation, le faire semblant. En écrivant cette phrase, Balzac n'affirme rien d'aucun individu réel, car il sait que Madame Vauquer n'existe pas. Au lieu de cela, il fait comme s'il existe une telle personne, dans le but d'inviter ses lecteurs à l'imaginer. Le point de vue majoritaire, c'est qu'on ne juge pas les énoncés fictionnels comme vrai ou faux. En réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, mais ce ne sera pas important ici. Au contraire, il est clair qu'on juge les énoncés parafictionnels et métafictionnels comme vrai ou faux. Les énoncés parafictionnels sont des énoncés, comme vous savez, rapportant ce qui se passe dans ou selon la fiction, ce qu'on appelle des vérités fictionnelles. Ce qui est fictionnellement vrai, ou comme je préfère dire, storifié, c'est un néologisme en anglais comme en français. Ce n'est pas seulement ce qui est explicite, comme le fait que Madame Vauquer est une vieille femme, mais c'est aussi ce qu'on infère à partir de ce qui est explicite en utilisant sa connaissance du monde, de l'arrière-plan. Comme par exemple le fait que Madame Vauquer est avare et hypocrite. Lorsqu'on rapporte ce qui est fictionnellement vrai ou storifié, la référence à l'œuvre peut être explicite ou implicite, comme vous savez déjà. Par exemple, l'énoncé suivant semble vrai dans le Père Goriot, Madame Vauquer est avare et hypocrite, et l'énoncé suivant semble faux dans le Père Goriot, Madame Vauquer est compatissante envers les pauvres. Okay. Les énoncés métafictionnels peuvent également être jugés vrais ou faux. Par exemple, cette phrase semble vraie. Madame Vauquer est un personnage de fiction créé par Balzac. Le problème qui nous occupe, c'est de comprendre comment chacune de ces affirmations peut être vraie ou fausse si Madame Vauquer n'existe pas. Parce que je pense que Madame Vauquer n'existe pas. Okay. Les jugements de vérité et de fausseté sont liés à un troisième trait caractéristique de la pensée et du discours sur les personnages de fiction, à savoir la dualité de perspective dont professeur Racanetti vient de parler. Quand on imagine que Madame Vauquer est une vieille femme, ici, c'est une image d'elle. Tenant une pension familiale, on adapte une perspective interne à l'univers fictionnel, un univers dans lequel se déroulent les événements du roman. Parce qu'il n'y a en réalité, du point de vue externe, personne comme ça, on dit que Madame Vauquer n'existe pas. D'autre part, on dit qu'il y a un personnage. Sûrement, personne ne niera que Madame Vauquer est un personnage du roman. De plus, Madame Vauquer, comprise comme une personne imaginaire, est très différente de Madame Vauquer, comprise comme un dispositif littéraire. Dans l'univers de l'histoire, elle est un être humain né des parents. Dans la réalité, elle est une invention de Balzac, bien sûr. Les réalistes, à propos des personnages de fiction, privilégient la perspective externe. Ils considèrent que les énoncés métafictionnels concernant des objets littéraires concernent les objets littéraires abstraits, comme vous savez, de sorte qu'ils sont littéralement vrais ou faux. Cependant, les réalistes ont du mal à expliquer le point de vue interne. Balzac n'invite pas la lectrice à imaginer quoi que ce soit à propos d'un objet abstrait. C'est la raison que le professeur Recanati a choisi d'expliquer chaque genre d'énoncé avec une théorie différente. Les anti-réalistes, quant à eux, privilégient la perspective interne à partir de laquelle on imagine simplement une vieille femme. Mais ils ont du mal à expliquer l'intuition que certaines de nos déclarations sur les personnages de fiction sont vraies sans équivoque. Désolé. Un dernier trait caractéristique de la pensée et du discours sur les personnages de fiction est la variété des inventions des auteurs. Les philosophes se sont presque exclusivement concentrés sur des personnes fictives bien individualisées et nommées. Mais une théorie des personnages de fiction, ou de fiction, la métaphysique de la fiction, doit aussi reconnaître que les auteurs inventent bien plus que les personnages. Ils inventent aussi des lieux, comme le Middlemarch de George Eliot, des organisations, comme le Congrès des enfants de minuit de Salman Rushdie, des objets, comme le crâne de Yorick dans Hamlet, des événements, comme la fête de Clarissa Dalloway de Virginia Woolf, des œuvres d'art, comme la peinture de Dorian Gray d'Oscar Wilde, et des types ou propriétés, comme être un Lilliputien dans Les Voyages de Gulliver. Et il place tout cela dans le contexte des univers que la lectrice est censée imaginer. Gardant à l'esprit ces traits caractéristiques du discours de la pensée à propos des personnages de fiction, je vais esquisser l'approche que je préfère. Considérez à nouveau la phrase d'ouverture de Père Goriot, la voici. J'ai dit qu'en écrivant cette phrase, Balzac n'affirme rien à propos de Madame Vauquer, mais invite la lectrice à l'imaginer. Concrètement, il invite à imaginer qu'il s'agit d'une vieille femme qui tient depuis 40 ans une pension familiale, la maison Vauquer, à Paris. Mais c'est difficile de préciser exactement le contenu de ce qu'on est censé imaginer. Quand on imagine des individus réels, c'est différent. Je pourrais m'imaginer, ou peut-être imaginer François Recanati, porter une combinaison spatiale en ce moment. Allez, on essaie. Ici, ce qui se passe, c'est que j'imagine d'une personne en particulier, par exemple moi-même, que j'ai des propriétés différentes de celles que j'ai réellement. Mais avec Madame Vauquer, il n'y a personne à qui on pense et à qui on attribue des propriétés. Alors, quand on lit cette première phrase, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ma réponse est celle-ci. On est censé former une représentation mentale de Madame Vauquer associée à certaines propriétés. J'appellerai les représentations mentales qui concernent les individus, qu'elles existent ou non, des notions. Nous pouvons penser à une notion comme une sorte de symbole mental qui représente quelqu'un ou quelque chose en particulier. Mais c'est une erreur de se concentrer uniquement sur la façon dont on représente mentalement Madame Vauquer. Après tout, Balzac n'invite pas les lecteurs seulement à imaginer des individus spécifiques, il les invite à imaginer un monde, l'univers fictionnel. La notion de Madame Vauquer fait partie d'une représentation mentale plus large de l'univers fictionnel qu'on construit dans la lecture, qui inclut des représentations d'autres personnages de fiction, comme le père Goriot, Eugène de Rastignac, Monsieur Vautrin, etc., des maisons fictives comme la maison Vauquer, des choses fictives comme la médaillon du père Goriot contenant les chevelures de ses filles. Parallèlement à cela, il y a des représentations des lieux réels, y compris les lieux reconnaissables à Paris, tels que la rue Neuve-Sainte-Geneviève, actuellement la rue Tournefort, le quartier latin et le faubourg Saint-Marcel. Comme je l'ai dit dans ma conférence la semaine dernière, je soutiens qu'en utilisant les noms de ces lieux réels, Balzac s'y réfère véritablement. Autrement dit, lorsqu'une personne lit une œuvre de fiction, elle construit une représentation mentale de l'univers fictionnel avec les représentations des choses qui sont fictives, mais aussi des choses qui sont réelles. Les psychologues de la compréhension narrative appellent cela un modèle mental ou un modèle de situation. Il s'agit d'une représentation mentale multidimensionnelle et dynamique des situations décrites par un texte, comprenant des représentations des personnes et des objets, de leurs propriétés et relations, des séquences d'événements, et ainsi de suite, qu'on met à jour au fur et à mesure de sa lecture. Selon les psychologues, les lecteurs construisent et conservent des modèles de situation dans la mémoire épisodique, la composante de la mémoire responsable du maintien des informations liées à des expériences particulières. Dans ce cas, l'expérience de lecture. Quand on pense à Madame Vauquer comme habitante de cet univers fictionnel, on pense à elle depuis la perspective interne. Mais même quand on imagine les événements du père Goriot, on n'oublie pas que Madame Vauquer est fictive. Lorsqu'on commence à lire le roman, on reconnaît immédiatement que Balzac introduit un personnage de fiction. Ainsi, les notions de Madame Vauquer sont également associées à des informations qu'on peut appeler métafictionnelles. Une théorie bien connue en philosophie est qu'on conserve des informations sur les individus, y compris les individus qui n'existent pas, dans des dossiers mentaux. Un point de vue que François Recanati a longuement élaboré et défendu. L'idée, telle que je l'utilise, est que lorsqu'on forme une notion de Madame Vauquer, on l'inclut dans son modèle de situation et, en même temps, on ouvre un dossier mental et on y met toutes les informations qu'on a sur elle. Nous pouvons interpréter les dossiers mentaux comme des moyens d'organiser des informations relativement stables sur un individu. Dans la mémoire sémantique, la composante de la mémoire qui conserve les informations factuelles et conceptuelles générales. Dans nos dossiers mentaux sur Madame Vauquer, nous incluons des informations métafictionnelles, par exemple qu'elle n'existe pas et qu'elle est un personnage de fiction créé par Balzac. À côté des informations fictionnelles ou parafictionnelles, par exemple que dans le roman, elle est une vieille femme qui tient une pension familiale. Je reviendrai sur le rôle des dossiers mentaux lorsque je reviendrai sur la question des deux perspectives un peu plus tard. Mais avant ça, je veux aborder une question différente. Qu'est-ce qui fait qu'une notion ou un dossier mental concerne Madame Vauquer? Pourquoi est-ce une notion de Madame Vauquer en particulier plutôt que de Rastignac ou de Madame de Beauséant? C'est la question d'identification. Rapidement, je pense que la réponse à cette question est la suivante. une notion compte comme une représentation mentale de Madame Vauquer parce qu'elle est liée de la bonne manière à la représentation de Balzac du personnage. Je propose que nous comprenions l'invention d'un personnage comme suit. Balzac a formé une nouvelle notion associée au nom de Madame Vauquer et a ouvert un nouveau dossier mental auquel il a ajouté une variété d'idées sur les propriétés de Madame Vauquer. Il a déployé la même notion en introduisant le nom dans le Père Goriot. L'utilisation par Balzac du nom dans le roman est généralement interprétée comme une sorte de simulation ou faire semblant, comme j'ai dit. C'est-à-dire qu'il fait comme s'il y avait quelqu'un à qui il fait référence. Mais le propre dossier mental de Balzac sur Madame Vauquer inclurait l'information que Madame Vauquer n'existe pas, qu'elle est un personnage de fiction, qu'il a créé, etc. De cette façon, Balzac a initié une pratique qui consiste à utiliser le nom Madame Vauquer pour parler et penser au personnage. On participe à la pratique tant que ces notions et ces usages du nom se remettent à l'usage originel de Balzac dans le discours tant interne qu'externe. Cette pratique crée un réseau de représentations qui trouve son origine dans la notion de Balzac. Cela explique pourquoi différentes personnes peuvent parler de et penser à la même Madame Vauquer que celle inventée par Balzac. C'est la co-identification. Elle participe à la pratique dont l'origine est la notion de Balzac. Cela explique aussi pourquoi identifier Madame Vauquer, ce n'est pas la même chose qu'identifier Rastignac ou Vautrin. Il existe différentes pratiques ou réseaux remontant à des origines distinctes, soit des notions différentes dans l'esprit de Balzac, comme j'ai dit, soit des représentations distinctes dans la fiction, selon les détails de la théorie, associées à des introductions différentes des noms. Nous pouvons déployer ce cadre pour expliquer le contenu qu'on imagine quand on imagine que Madame Vauquer est avare et hypocrite. Sans entrer dans les détails, qui sont trop compliqués pour l'instant, l'idée que je défends, c'est que l'on peut spécifier les conditions de vérité, les conditions qui décident si on dit quelque chose vrai ou faux, en termes de notions ou de réseaux. C'est-à-dire la pratique initiée par Balzac. Il existe de nombreuses variantes de cette approche dont je viens de parler pour expliquer l'identification, la co-identification et le contenu qu'on imagine, ainsi que de nombreux détails que je n'ai pas abordés, tels que la manière dont ce cadre explique la co-identification entre différentes fictions. Je laisserai ces questions de côté pour une autre fois. Au lieu de cela, je vais me tourner maintenant vers la question de la vérité et la fausseté. Je commencerai par des énoncés parafictionnels, comme dans le Père Goriot, Madame Vauquer est avare et hypocrite, qui semble vrai, et dans le Père Goriot, Madame Vauquer est compatissante envers les pauvres, ce qui semble faux. Le problème consiste à expliquer la véracité, la fausseté de ces affirmations lorsqu'elles contiennent un nom qui identifie un personnage de fiction. Dire que le nom fait référence à un objet abstrait n'aide pas, okay, évidemment, je pense, qu'elle n'est pas storifiée, n'est pas vraie dans la fiction, comme vous savez, qu'un objet abstrait est une vieille femme avare. Mais si le nom ne fait référence à rien, alors l'énoncé ne peut pas être vrai en vertu de l'attribution correcte de propriété à un individu. Une façon d'expliquer cela, que j'ai défendu ailleurs, c'est de dire que lorsqu'on préfixe explicitement ou implicitement nos énoncés dans la fiction ou selon la fiction, Cela signifie qu'on dit « la fiction invite la lectrice à imaginer de la manière suivante ». Et puis, ce qui suit précise la façon dont on est censé imaginer. Dans ce cas, il s'agit de déployer une notion de Madame Vauquer et de lui associer certaines propriétés. Cependant, cet appel au rôle du préfixe n'aidera pas avec d'autres énoncés liés aux énoncés fictionnels. Par exemple, je plains Anna Karenine. Ce n'est pas vrai dans la fiction parce que je ne suis pas dans la fiction. Madame Vauquer n'est pas aussi méchante que la marquise de Merteuil. La marquise de Merteuil est un personnage dans Les Liaisons dangereuses de Pierre Chaudelot de Loclos. Où Oedipe et Freud étaient tous deux dévoués à leur mère. C'est un exemple d'Anthony Everett. À la suite de Kendall Walton, les théoriciens du faire-semblant proposent une approche générale de tout discours du point de vue interne. Et dans cette théorie, les énoncés parafictionnels sont aussi du point de vue interne, il faut dire. Ces énoncés ne sont ni vrais ni faux, ce sont des exemples de faire-semblant, mais ils peuvent être utilisés pour affirmer quelque chose de vrai sur le monde. Voici comment. L'idée force de Walton, dont François Recanati a parlé, c'est que les œuvres de fiction sont des accessoires dans les jeux de faire-semblant, tout comme une poupée est un accessoire dans le jeu de faire-semblant d'un enfant. Les caractéristiques de l'accessoire autorisent généralement certains jeux et pas d'autres. Par exemple, un enfant pourrait faire semblant qu'une poupée est un marteau. Mais ce n'est pas à cela que servent les poupées. Les œuvres de fiction sont des accessoires dans les jeux d'imagination qui autorisent à imaginer leur contenu. Imaginer le contenu de l'œuvre, c'est participer au jeu. Par exemple, il convient d'imaginer que Madame Vauquer tient une pension familiale, rien n'empêche d'imaginer qu'elle est banquière. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est autorisé dans le jeu de faire semblant du roman de Balzac. Pour les mêmes raisons, il est tout à fait approprié dans le jeu de dire que Madame Vauquer tient une pension familiale, mais non qu'elle est banquière. Mais, et c'est l'idée importante, on peut utiliser des énoncés comme « Madame Vauquer tient une pension » pour faire plus que participer au jeu. On peut les utiliser pour rendre compte du contenu du roman. La clé, c'est de reconnaître ce qui est approprié dans un jeu dépend de certaines conditions dans le monde réel. Et en utilisant ces énoncés, en disant des choses appropriées dans le jeu, on peut parler des conditions réelles. Selon Walton, quand on dit « Madame Vauquer tient une pension », on indique que parler ainsi convient au jeu de faire semblant autorisé de le père Goriot. Mais ce genre de faire semblant est approprié en vertu des faits qui concernent ce que le roman invite à imaginer. Donc, il est vrai, il est un mouvement approprié dans le jeu à cause de la condition réelle que ça dit quelque chose de contenu de la fiction. Donc, on peut utiliser l'énoncé pour transmettre quelque chose de vrai sur le contenu de l'histoire. Si on ajoute le préfixe dans le père Goriot, qui n'est pas nécessaire, bien sûr, on précise ce que c'est ce qu'on fait. On dit un peu, Kendall Walton dit, c'est un peu comme une trahison de jeu, un peu. Oui. De dire explicitement dans le Père Goriot. Mais je pense que c'est seulement une façon de dire, c'est ce que je fais, je dis quelque chose pour transmettre quelque chose d'autre qui est vrai. De la même manière, les autres énoncés indiquent que parler ainsi convient à d'autres jeux de faire semblant, non officiels ou étendus. Okay. Il y a des différentes expressions pour cela. Par exemple, la vérité de « Je plains Anna Karenine », ce n'est pas autorisé du jeu officiel du roman parce que je ne suis pas dans le roman, mais c'est un jeu reconnaissable qu'on joue avec le roman, de répondre avec les émotions. La vérité de « Je plains Anna Karenine » dépend de l'état affectif de l'occutrice. Il y a une condition réelle dont on peut parler en disant « Je plains Anna Karenine ». Et la vérité de Madame Vauquer n'est pas aussi méchante que la marquise de Merteuil dépend des faits concernant l'interprétation comparative. Oui. Encore une fois, on ne peut pas ajouter un préfixe dans la fiction parce qu'il n'y a pas de fiction avec ces deux personnages. On peut transmettre des vérités sur ces faits en s'engageant dans les formes pertinentes de faire semblant. Donc, on utilise le faire semblant comme un outil pour dire des choses de vrai. La spécification du contenu de ces faire semblants implique toujours, à mon avis, les notions des personnages dont on parle. Cela peut sembler, ça dépend de votre point de vue, être une bonne approche lorsqu'on parle et pense au personnage d'un point de vue interne. Ça, c'est la raison pour cette théorie, le point de vue interne. Mais qu'en est-il du point de vue externe? L'une des principales motivations du réalisme à propos des personnages de fiction et l'affirmation selon laquelle certaines déclarations sur les personnages de fiction sont littéralement vraies ou littéralement fausses. Ce sont les énoncés métafictionnels comme « Madame Vauquer est un personnage de fiction » ou « Il y a de nombreux personnages de fiction », par exemple. Ces affirmations semblent sérieuses. Il ne semble pas qu'on participe dans un jeu de faire semblant quand on dit « Madame Vauquer est un personnage de fiction ». Selon les réalistes, le premier prédit une propriété véritable de quelque chose, être un personnage de fiction, et le second quantifie sur une véritable classe d'entité, c'est-à-dire les personnages de fiction. En fait, une grande partie de l'attrait du réalisme vient des énoncés métafictionnels. Mais je ne suis pas convaincue qu'il faille être réaliste pour expliquer ce genre de propos. Premièrement, même si les affirmations sont littéralement vraies, l'utilisation dans le langage ordinaire d'expressions comme « il y a » ne doit pas être lue comme engageante ontologiquement. Je pense que c'est encore plus évident en français qu'en anglais, mais en anglais, les philosophes sont convaincus que dire « il y a », c'est engageant ontologiquement, il faut qu'il y a vraiment, il existe quelque chose. Mais on dit non seulement qu'il y a des personnages de fiction, mais aussi qu'il y a des choses qui n'existent pas. Il est incroyable, à mon avis au moins, que la vérité de « il y a des choses qui n'existent pas » engage à l'existence de quoi que ce soit. Il n'est pas non plus évident qu'être un personnage de fiction fonctionne comme un prédicat ordinaire. le terme fictif dans des expressions telles que détective fictif et mère fictive semblent être privatifs, on dit, comme faux ou imaginaire. C'est-à-dire que l'expression, le terme, ça dit « il n'y a rien là, il n'y a rien dont je parle ». La fausse monnaie, par exemple, n'est pas la monnaie. Tout comme une mère fictive n'est pas une mère. Quoi qu'il se passe dans ces cas, et les explications de ces cas sont difficiles, les prédicats n'attribuent pas simplement des propriétés aux objets. C'est plus compliqué, je pense. En effet, dire que quelque chose est un personnage de fiction revient ordinairement à dire que la chose en question n'existe pas. C'est-à-dire que les représentations de la chose trouvent leur origine dans une œuvre de fiction. À vrai dire, tout se passe comme si être un personnage de fiction, au sens pertinent, impliquait non-existence. C'est pourquoi cet énoncé est explicatif. Madame Vauquet n'existe pas, elle est un personnage de fiction. Et cet énoncé ressemble à une inférence valide. Madame Vauquet est un personnage de fiction, donc elle n'existe pas. Frederick Croon, un philosophe de la Nouvelle-Zélande, décrit avec justesse la phrase d'être un personnage de fiction est un moyen de caractériser la non-existence. D'autres exemples sont d'être un produit de l'imagination, d'être un postulat scientifique raté, une créature mythique, et ainsi de suite. Il faut ajouter, je suis d'accord que la représentation de Madame Vauquet, elle existe. Il y a une représentation de cette personne imaginaire. Mais ce n'est pas seulement les représentations dans lesquelles les réalistes parlent, la plupart du temps, quand même, et cela n'explique pas ces énoncés. On ne dit pas que les représentations n'existent pas, bien sûr, mais on ne dit pas que les représentations, par exemple, les parties du livre qui identifient Madame Vauquet, qui sont les représentations de Madame Vauquet dans le livre, on ne dit pas que ces représentations sont des personnages fictionnels non plus. La relation étroite entre fictionnalité et non-existence pose un défi supplémentaire au réalisme, puisque dans les positions actuellement représentées, comme la position défendue par professeur Recanati, les entités fictives sont des objets abstraits qui existent. Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer qu'on dit que les personnages de fiction n'existent pas? Les réalistes ont deux options. Ils pourraient dire qu'une phrase comme « Madame Vauquet n'existe pas » est littéralement fausse, même si on l'entend comme affirmant quelque chose d'autre qui est vrai, comme « Madame Vauquet n'est pas un être humain en chair et en os ». Ou, c'est l'autre option, il pourrait dire que exister, le mot exister, a une signification différente dans les énoncés métafictionnels que dans d'autres contextes. Dans les énoncés métafictionnels, on peut dire, cela signifie la même chose que ne pas être un objet concret. Même si dans d'autres contextes, cela signifie autre chose, à savoir qu'il n'y a rien de tel. Par exemple, si un philosophe, un métaphysicien, par exemple, dit « il n'y a pas de chiffres », donc il y a des philosophes qui nient l'existence des chiffres, ou « il n'y a pas de morale », il y a ainsi des philosophes qui nient l'existence de morale, elle ne nie pas ainsi que ces choses soient concrètes, ce qui est déjà évident. Ils ne peuvent pas être concrets. Elles nient qu'ils aient la moindre réalité. À vrai dire, la raison habituelle pour dire que les énoncés de la forme S n'existe pas sont vrais et que le terme S ne fait rien référence à rien du tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus en ce qui concerne la théorie pour expliquer ces énoncés, les existentiels négatifs, mais quand même, il y a beaucoup de consensus que le terme de sujet, ici S, ne fait référence à rien. À mon avis, un problème plus important, même plus important pour le réalisme, est que ces types d'énoncés purement métafictionnels sont extrêmement rares en dehors des discussions philosophiques sur la fiction. Les gens ordinaires, ne disent presque jamais, je pense, des choses comme « Madame Vauquet est un personnage de fiction », sauf lorsqu'ils ont l'intention de corriger une impression erronée qu'il existe une telle personne. Le reste du temps, quand on parle de personnage de fiction en tant que personnage de fiction, les points de vue internes et externes se mélangent. Par exemple, il n'y a rien de problématique à dire « Hamlet est un personnage de fiction introspectif ». C'est vrai, à mon avis. En revanche, dans « 3 est un nombre introspectif », il y a une erreur de catégorie. Si le nombre 3 existe, c'est un objet abstrait et il ne peut pas être introspectif. Pourtant, nous traitons Hamlet comme à la fois fictif et introspectif. Mais nous n'avons pas non plus besoin d'inventer des exemples comme ça. Voici un autre exemple, vrai. Dans la section livre du journal britannique The Guardian, on lit que M. Darcy, le personnage dans L'Orgueil et Préjugé de Jane Austen, a été élu le personnage de fiction que les femmes aimeraient le plus inviter à dîner, ce qui amène l'écrivain à penser que les femmes se pâment devant un personnage de fiction qui a la quintessence du mâle patriarcal dominant. Même le discours critique le plus théorique est rempli de ce mélange de perspectives. Voici la critique et théoriste littéraire Elaine Showalter discutant de l'histoire de la critique concernant Ophélie de Hamlet. Il dit, pour la plupart des critiques de Shakespeare, Ophélie a été un personnage mineur insignifiant dans la pièce, touchante par sa faiblesse et sa folie, mais surtout intéressante, bien sûr, dans ce qu'elle nous raconte sur Hamlet. Vous voyez que tout en décrivant Ophélie comme un personnage mineur insignifiant, Showalter lui attribue des propriétés telles que la faiblesse et la folie et utilise des pronoms personnels féminins. Donc, il traite Ophélie comme un dispositif littéraire en même temps qu'une personne, une femme. En d'autres termes, je l'ai dit, loin de sortir de la perspective interne, le discours critique se pose cette perspective. Adopter un point de vue externe sur un personnage, c'est au moins en partie réfléchir à la façon dont ce personnage fonctionne dans le cadre de la perspective interne. C'est la raison pour la critique. Le but, c'est de comprendre les traits caractéristiques de la représentation qui permettent au personnage de fonctionner de cette manière. En plus, le mélange de perspectives n'apparaît pas seulement dans la discussion critique. Cela se produit également dans la fiction elle-même. N'oubliez pas que lorsqu'on adopte la perspective interne, on oublie ni ne suspend la conscience que ces imaginations sont dirigées vers des personnages de fiction plutôt que vers des personnes réelles. C'est pourquoi, je pense, c'est pour cette raison, parce qu'on n'oublie pas que les auteurs peuvent se référer à la fictionnalité de leurs personnages dans la narration, comme l'a expliqué François Recanati la semaine dernière dans le cours. Voici un exemple tiré de l'histoire de Tom Jones, de Henry Fielding, un roman britannique du XVIIIe siècle. Comme nous avons maintenant mis Sophia entre de bonnes mains, le lecteur, je comprends, se contentera de la déposer quelque temps et de s'occuper un peu d'autres personnages, et particulièrement du pauvre Jones, que nous avons laissé assez longtemps pour faire pénitence de ses infractions passées. Ce genre d'aparté était très courant au XVIIIe siècle et avant, mais même dans un roman réaliste comme Le Père Goriot au XIXe siècle, on trouve cette phrase peu après la première phrase dont j'ai déjà parlé. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouva une pauvre jeune fille. On voit ce genre d'aparté partout dans la fiction du passé, mais plus récemment, il y a des exemples plus radicaux, en fait, comme la pièce très connue, « Six personnages à la recherche d'un auteur » de Luigi Pirandello. Dans cette pièce, les personnages qui n'ont pas d'auteur, qui cherchent un auteur, se mélangent avec les personnes réelles, en fait les acteurs et les actrices. Ou Swim Two Birds de Flann O'Brien. J'ai regardé, mais on ne traduit pas le titre parce qu'il n'y a pas de traduction. Dans le roman d'O'Brien, certains personnages droguent leur auteur pour qu'ils puissent avoir du temps pour eux-mêmes. Et l'auteur agresse sexuellement un autre personnage, produisant un enfant, qui devient écrivain, bien sûr. D'autres exemples incluent le roman de Jasper Ford, dans lequel le détective humain Tuesday Next entre et sort des univers des divers romans, interagissant avec des personnages qui s'échappent occasionnellement dans le monde réel, ou Sarah est le lieutenant français de John Fowles, dans lequel l'auteur-narrateur entre dans la fiction lui-même pour réfléchir à la manière de terminer l'histoire. Donc, c'est familier, c'est un peu partout, ce mélange de perspectives, même dans le faire semblant de la fiction, même dans les énoncés vraiment fictionnels, il y a des choses métafictionnelles, ce mélange de perspectives. Dans tous ces cas, on pense au personnage de fiction à la fois comme dispositif littéraire et comme individu concret imaginaire. Une façon d'expliquer cela est de faire appel aux dossiers mentaux qu'on mobilise lorsqu'on pense et parle de personnages. C'est la proposition de François Recanati dans son article fictionnel, parafictionnel, métafictionnel, dont il a déjà parlé. Dans cet article, il discute des cas, et il vient de le discuter aussi dans le cours auparavant. Il discute les cas où le même mot est utilisé pour deux facettes ou aspects différents d'une même chose, comme dire, vous venez de le voir, en fait, le déjeuner était délicieux, mais cela a pris une éternité. L'aspect du déjeuner qui était délicieux, c'est la nourriture, évidemment, mais l'aspect qui a pris une éternité, c'est l'événement social. dans cet article, plutôt que de dire qu'il existe une entité réelle dans le monde qui a les deux aspects, qui est impossible, il propose que ce soit le concept de déjeuner qui combine les deux. De même, c'est parce que les dossiers mentaux contiennent à la fois des informations fictionnelles et métafictionnelles que les concepts des personnages de fiction ont cette dualité. C'est ce que dit dans l'article. Bien sûr, les réalistes diront que seules les informations métafictionnelles caractérisèrent véritablement les personnages de fiction. Je suis d'accord que nous pouvons utiliser le cadre des dossiers mentaux pour expliquer la dualité des perspectives de cette manière. Cependant, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une explication suffisamment générale de cette dualité, par des raisons qui, je pense, exercent une pression supplémentaire sur le réalisme. Comme je l'ai mentionné au début de cet exposé, les auteurs de fiction inventent bien plus que des personnes de fiction. Ils inventent aussi des lieux, des institutions, des objets, des événements, et ainsi de suite. Et ils invitent la lectrice à imaginer toutes ces choses au sein de l'univers de la fiction, dont le fond, j'ai dit, est le monde réel. Les lecteurs le font en construisant des modèles de situation dans leur imagination dont les personnages font partie. Voici le point important. On peut adopter différentes perspectives sur toutes ces dimensions de ce qu'on imagine, pas seulement sur des personnes fictives particulières. Considérez, encore une fois, la scène de Hamlet, dans laquelle Hamlet contemple le crâne de Yorick. Du point de vue interne, le crâne de Yorick est un crâne en os, exhumé par le fossoyeur de la terre, qui n'est que le sol dans un cimetière. Du point de vue extérieur, le crâne peut être interprété comme un symbole de la finalité physique de la mort, un dispositif pour préfigurer le destin de Hamlet lui-même, etc. De même, la terre dans laquelle il a été enterré symbolise la mélancolie de Hamlet. Dans la théorie des quatre humeurs, en vigueur à l'époque, le tempérament mélancolique était associé à l'élémentaire. Donc, les critiques littéraires, ils parlent souvent des références à la terre dans cette pièce parce que ça symbolise l'état mental de Hamlet. Et on peut faire des déclarations comme dans Hamlet, la terre est un symbole de mélancolie, ou le crâne de Yorick représente la finalité physique de la mort. On peut dire ces choses. Je pense qu'il est beaucoup moins tentant dans ces cas de dire qu'il y a des artefacts littéraires abstraits qui existent d'une manière ou d'une autre distincte de l'œuvre. La terre, qui fonctionne dans la pièce comme un symbole de mélancolie, n'est que de la terre ordinaire, pas la terre fictive, quelle qu'elle soit. De même, on peut porter un regard externe et interne sur les lieux réels où se déroulent les événements du roman de Balzac, Le Père Goriot. Par exemple, on peut discuter, et les critiques le discutent, de la symbolique de la rive droite versus la rive gauche dans ce roman. Il n'est pas clair que les personnes aient des dossiers mentaux séparés pour tous ces différents aspects de l'univers fictionnel. Il semble juste que ce soit un fait à propos de la façon dont on comprend la fiction qu'on la voit sur deux perspectives différentes. OK, pour conclure, je ne nie pas que les réalistes aient des réponses à ces critiques, mais je ne les trouve pas convaincantes moi-même. En tout cas, je pense qu'on peut expliquer les traits caractéristiques de la pensée et du discours sur les personnages de fiction sans recourir au réalisme. Il y aurait encore beaucoup à dire pour défendre cette position, ce que je n'ai pas fait ici, mais j'espère avoir donné quelques raisons en sa faveur. Merci.